Jeudi 16 novembre dernier, plusieurs classes de seconde professionnelle ainsi que quelques élèves du groupe d'AP Radio ont eu l'honneur d'assister à une rencontre avec le photoreporter Arnaud Rouanet. Celui-ci était présent en Mayenne à l'occasion du Prestival, le festival journalistique du pays de Château-Gontier. Il est notamment revenu sur son parcours, son engagement auprès de l'armée française. Aussi, il nous a dévoilé quelques clichés forts en émotion et a accepté de répondre à nos quelques questions. Écoutez-le.
Alors bonjour Monsieur Rouanet, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir si lorsque vous arrivez sur un terrain comme en Guinée, vous nous parliez tout à l'heure, est-ce que pour la population vous êtes accueilli en héros? Est-ce que la population vous attend et une fois que vous avez fait vos photographies, est-ce que la population peut voir vos clichés? Et est-ce que vous pensez, est-ce que la population sait ce que deviennent vos clichés et le but de...
Alors, la population, c'est un peu vaste. Pour la Guinée, c'est pas le photographe qui a été accueilli en héros, mais par contre, c'est les soignants. L'aide humanitaire qui était apportée par la France à ce moment-là, eux ont vraiment été accueillis. Ça se voyait dans la rue. Les gens nous faisaient des grands signes. En plus, on était en treillis, donc ils faisaient des grands signes, applaudissaient sur le passage des bus. Voilà. Donc oui, les médecins, eux, ont été accueillis en héros. Moi, je venais là pour témoigner de leur travail. Donc, plus je suis transparent, et mieux c'est. Pour parler de mes photos. Très vite, j'ai commencé à les diffuser d'une manière un peu particulière en Guinée. Et je faisais des grandes affiches que j'accrochais dans le centre de traitement. Comme ça, dès qu'on avait des visites, les gens voyaient ce qui se passait à l'intérieur du centre et ce qui s'était passé pendant toute la phase de construction et pendant les phases de soins. Voilà. Donc ça, c'était un premier mode de diffusion. Et je donnais toutes mes photos au personnel, aux personnes qui sortaient du centre, qui étaient guéries. Voilà. Il y avait un autre mode d'utilisation, ils amenaient avec eux, ça leur permettait de montrer à leur entourage ce qui se passait dans un centre de traitement. Ça, c'était pour contrer toutes les rumeurs de vol d'organes, etc. Donc ils montraient à leur famille que finalement ils avaient été dans un hôpital comme un autre. Voilà. Il y avait un troisième mode de diffusion, j'avais fait des portraits de tous les personnels soignants qui étaient sur des tablettes numériques qu'on confiait aux patients qui étaient hospitalisés et avec un prénom, ils avaient le visage. Donc on marquait tous sur nos combinaisons de protection notre prénom et le patient, lui, allait voir, cherchait et trouvait le visage de la personne qui se cachait derrière le masque. Ça, c'était un autre mode d'utilisation. Et pour finir, parce que mon sujet principal, c'était quand même les personnels soignants, j'ai conçu et j'ai fabriqué un livre à la fin de la mission qu'ils ont tous pu aller acheter sur un site dédié. Voilà. Donc ouais, j'ai essayé de montrer le plus possible les photos aux gens que je photographiais.
Et est-ce que vous, d'un point de vue personnel, vous prenez votre rôle comme un rôle d'ambassadeur? Vous avez l'impression de faire découvrir à la population européenne qui est assez loin de tout ça, qui ne se rend pas forcément compte des ravages que fait Ebola en Afrique. Est-ce que vous pensez que vous leur montrez, au travers de vos clichés, vous essayez de rendre compte de la situation là-bas?
C'est mon rôle majeur. Enfin, c'est en tout cas ambassadeur peut-être pas, mais témoin, c'est sûr. Témoin, c'est sûr, et le plus objectif possible. Le but, c'est de témoigner le plus, de documenter. Moi, j'aime beaucoup ce terme parce que documenter, ça englobe plus que la photo et plus que le texte. C'est tout cumulé. Donc, c'est essayer de rapporter le plus fidèlement possible ce que j'ai vu. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de texte, de légende. C'est essentiel. Ouais.
Et je me disais, est-ce que c'est si difficile de publier un reportage comme ça? Parce que à la télé, on voit souvent des reportages sur la France, mais on parle pas d'Ebola ou d'autres virus comme ça, s'il n'y a pas énormément de morts. Alors que là, comme vous dites, en Guinée, il y a quand même pas un nombre extravagant de morts, mais c'est quand même important sur...
Le problème des médias en général, c'est qu'ils traitent de l'actualité qu'ils jugent immédiate. Voilà. Et donc la majorité des médias font ça. Il y a très peu de médias qui reviennent sur des faits d'actualité a posteriori pour essayer d'être un peu plus dans l'analyse, essayer de comprendre et puis voire même d'expliquer les conséquences d'un événement, une guerre, un tremblement de terre ou un virus. Et donc effectivement, c'est plus difficile de produire et de faire paraître ce type de sujet que d'être dans l'immédiateté. Si j'avais été à Conakry au moment où les virus s'est vraiment déclaré, qu'il y avait des morts dans les rues, j'aurais sans doute publié des images. Sauf que ça racontait qu'une toute petite partie de l'histoire, et en plus, c'est pas une partie qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que mes images montrent très peu de morts, et finalement, et que je me suis plutôt orienté et tourné vers les gens qui ont survécu. Alors même si c'est pas publié, c'est important de le faire. Et c'est important de le montrer le plus possible. D'où l'exposition à Château-Gontier, d'où ma rencontre avec vous aujourd'hui, parce que c'est des choses dont il faut parler, des choses qu'il faut qu'on ait à l'esprit et qu'on nous a pas forcément expliqué avant dans les médias traditionnels.
Et lorsque vous revenez de Guinée, par exemple, des terrains où vous voyez des personnes mourir, des personnes en agonie, qui souffrent, est-ce qu'on imagine que vous relativisez quand vous revenez en France, que vous n'acceptez pas que quelqu'un se plaigne s'il a un rhume ou qu'il a mal au dos ?
C'est pas que j'accepte pas, mais je suis moins attentif. J'essaie de pas être dans le jugement, même si c'est très très difficile quand on rentre, parce qu'on a vécu des choses fortes que beaucoup ignorent la plupart du temps. Et ça, c'est très frustrant. Donc il faut prendre sur soi énormément pour... dans une question de respect, on revoit des gens qui n'ont pas vécu les mêmes choses que nous. Ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas se poser en donneur de leçons. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, ce qu'il faut, c'est très vite montrer ce qu'on a fait pour essayer d'expliquer. Voilà. Mais j'essaie de ne pas juger. J'y arrive pas toujours.
Et ça a été une évidence pour vous, la photographie, ou alors vous avez, c'est le journalisme en général qui vous intéresse, l'audiovisuel, la presse écrite ?
Alors en fait, ça, non, pour moi, la photographie, tout de suite, ça a été le vecteur et le mode d'expression que j'ai choisi dès la seconde. Et ça ne m'a pas quitté depuis, donc ça fait 25 ans, mais même un peu plus. Mais par contre, je me tourne vers les autres médias. Je me tourne vers l'écrit notamment. J'aimerais beaucoup être plus facile à l'écrit, donc je vais travailler là-dessus. Et puis je me tourne aussi vers la radio, enfin le son, parce que je prends beaucoup d'informations avec un enregistreur.
Et est-ce que vous avez constaté une évolution de votre métier depuis vos débuts et jusqu'à aujourd'hui ?
Le métier de photographe a énormément évolué à cause des évolutions techniques. Moi j'ai connu les périodes de l'argentique, on est en numérique, la diffusion, le mode de diffusion des images s'est accéléré. Tout va très très vite maintenant, mais du coup l'effet pervers c'est qu'on oublie aussi très très vite les choses. Donc oui, le métier a énormément évolué, il y a de moins en moins, c'est très très difficile de vivre de ce métier, très difficile de partir à l'étranger pour aller témoigner. Donc ça a beaucoup évolué, il faut être pugnace, tenace pour continuer ce boulot.
Mais on voit à travers de vos clichés que vous essayez de montrer la joie et aussi l'espoir qu'ont les gens quand ils sont soignés, et pas les gens dans la mort, dans l'agonie. Oui, c'est vraiment d'apporter une lueur d'espoir à tous ceux qui risqueraient d'être contaminés.
Mais c'était le but premier de ce travail. C'est bien vu parce que encore une fois, je voulais montrer et parler des gens qui ont survécu. Parce que ceux qui sont morts, c'est triste, évidemment. Mais ils sont enterrés et l'histoire est terminée. Et donc, mais par contre, ceux qui ont survécu, ils ont un rôle à jouer pour la société. Ils ont un rôle à jouer pour leur pays. Et donc, il fallait montrer que ces gens-là, c'était inconcevable, insupportable, qu'ils subissent une double peine. Le virus, et puis l'ostracisation, la mise de côté, d'être poussé par leur entourage. Donc moi, je trouvais ça essentiel de parler de ces histoires-là, parce qu'ils méritent d'être accompagnés, d'être soutenus. Et en plus, ces gens... Ouais, c'est des gens qui ont risqué leur vie et malgré tout retournent faire leur métier, même s'ils sont terrorisés. Donc c'était essentiel de voir le verre à moitié plein.
Et pour terminer, est-ce que vous auriez un message pour celles et ceux qui souhaitent s'engager dans le journalisme, dans le photojournalisme ? Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier ?
C'est ce que je te disais il y a 3 minutes, il faut être passionné, il faut apprendre à écrire. C'est essentiel. Moi, j'ai 44 ans et je retourne en stage pour apprendre à écrire comme un journaliste. Donc même quelqu'un qui veut faire le métier de photographe, il est passionné par l'image fixe, qu'il en fasse tous les jours, mais qu'il apprenne à écrire comme un journaliste. Et il verra que ça change la conception du travail.
Merci, Monsieur Rouanet, d'avoir répondu à nos questions.
IMC Radio.
La radio de votre bahut.